de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Aujourd'hui, pour l'édition mercredi le 8 avril 2020, vous êtes avec moi Audrey et nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, le commentaire et d'autres infos comme l'histoire d'aujourd'hui. Mon Indonésie, le magazine culturel Apprendre indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Bonsoir et bienvenue à tous. Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie. Avec moi Audrey et je vais vous présenter le journal d'aujourd'hui. Il y a quelques événements importants à informer, entre autres. L'Indonésie produira des équipements de protection individuelle fabriqués à partir de matières premières locales. Les citoyens sont exhortés de porter des masques en tissu pour empêcher COVID-19. L'Indonésie renforce sa coopération dans la gestion du COVID-19 avec la Corée du Sud. La Chine ne signale aucun nouveau cas de décès à Wuhan. Les Nations Unies ont appelé à une interdiction mondiale des marchés d'animaux sauvages. Empêcher la propagation de COVID-19, les Philippines prolongent le confinement jusqu'à fin d'avril. COVID-19, 5,8 millions de salariés sont en chômage partiel en France. Chers auditeurs, voici les nouvelles incomplètes. L'Indonésie produira des équipements de protection individuelle fabriqués à partir de matières premières locales. Le président du groupe de travail sur la gestion de COVID-19 en tant également le chef de l'Agence nationale de gestion des catastrophes, Denis Monardo, a déclaré que l'Indonésie produira des équipements de protection individuelle fabriqués à partir de matériaux locaux. Cette matière première locale mettra fin à la dépendance à l'égard des matières premières étrangères. Denis Monardo à Jakarta, lundi 6 avril, a déclaré grâce à la coopération d'un certain nombre de parties, telles que les universités, le ministère de la Santé et les chercheurs, dans la période à venir, l'Indonésie produira des équipements de protection individuelle avec des matières premières locales qui ont été obtenues la certification de l'OMS, afin que la dépendance d'obtenir des matières premières, des équipements de protection individuelle de l'étranger, peut être surmontée. Les citoyens sont exhortés de porter des masques en tissu pour empêcher COVID-19. Le gouvernement demande au public de porter des masques en tissu, en particulier lorsqu'il fait des activités à l'extérieur du domicile pour empêcher la propagation du coronavirus. le porte-parole du gouvernement pour la gestion de COVID-19, Ahmad Yuryanto, a déclaré lundi à Beijing que c'était l'une des mesures efficaces pour arrêter la chaîne de propagation de COVID-19. Lors d'une conférence de presse à Jakarta, Yuryanto a mis en garde contre les personnes qui avaient été effectivement exposées au coronavirus, mais qui n'avaient aucun symptôme. Selon lui, les sources infectieuses des personnes sans symptômes sont difficiles à détecter et à marquer, de sorte que les cas positifs de COVID-19 continuent de croître. Cet appel est conforme à l'appel du président indonésien Joko Widodo et à l'appel de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. L'Indonésie renforce sa coopération dans la gestion du COVID-19 avec la Corée du Sud. Le gouvernement indonésien renforce sa coopération dans la gestion du COVID-19 avec la Corée du Sud, car ce pays est considéré comme ayant réussi à supprimer la propagation de nouveaux types de coronavirus. Le ministre de la Coordination de l'Économie, Erlang Hartanto, a déclaré lundi à Pékin que l'un des facteurs clés était la capacité du gouvernement sud-coréen à effectuer un test rapide massif permettant au gouvernement de suivre et de réagir rapidement à la propagation du coronavirus. Erlang a discuté du renforcement de la coopération dans la gestion du COVID-19 avec le ministre sud-coréen du commerce, Yeo Myung-hee, par téléconférence. Lors de la réunion en ligne, Erlang a laissé le succès de la Corée du Sud dans la réalisation de tests massifs et soutenu par la grande production des deux sociétés biotechnologiques comme Cogen Biotech et Segen. Hartanto espère que les deux sociétés pourront produire des équipements de tests en collaboration avec des sociétés en Indonésie. La Chine ne signale aucun nouveau cas de décès à Wuhan. La Commission nationale chinoise de la santé n'a signalé aucun nouveau décès à Wuhan dans la province de Hubei, le centre de l'épidémie de COVID-19. C'est la première fois depuis que l'épidémie se propage. Wuhan devrait permettre aux gens de quitter cette ville mercredi pour la première fois depuis la fermeture de la ville le 23 janvier pour empêcher la propagation de l'épidémie de COVID-19. La Commission nationale chinoise de la santé a également signalé 32 nouveaux cas de virus COVID-19 en provenance de l'étranger survenus lundi. Ce cas est en baisse de 39 cas de la veille. La Commission nationale de la santé, comme l'a rapporté Reuters mardi 4 avril 2020, a déclaré que 32 cas provenaient de touristes étrangers. Le nombre total d'infections emportées à ce jour a atteint 983 cas. Le cas du coronavirus COVID-19 provient des importations et les patients asymptomatiques sont devenus une préoccupation majeure pour la Chine après que des mesures de confinement strictes ont réussi à réduire le taux global d'infection. Les Nations Unies ont appelé à une interdiction mondiale des marchés d'animaux sauvages. Les Nations Unies ont appelé à une interdiction mondiale des marchés d'animaux sauvages. Ceci est important à mettre en œuvre pour prévenir de futures pandémies. Elisabeth Maruma Mrema, la secrétaire exécutive par intérim de la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique, a déclaré que les pays devraient agir pour empêcher de futures pandémies en interdisant les marchés humides qui vendent des animaux sauvages vivants et morts pour la consommation humaine. Mrema a déclaré à The Guardian qu'il serait bon d'interdire le marché des animaux vivants comme cela a été fait par la Chine et plusieurs pays. Mais l'interdiction du marché des animaux sauvages peut également ouvrir la possibilité d'un commerce illégal des animaux sauvages. Certaines espèces sont sur le point de disparaître à cause de cette pratique. Vraiment, pense qu'il faut vraiment une solution alternative pour surmonter cette situation. Empêcher la propagation de COVID-19, les Philippines prolongent le confinement jusqu'à la fin d'avril. Le président philippin Rodrigo Duterte, mardi 7 avril 2020, a approuvé l'extension de l'application du confinement et de la quarantaine à domicile pour freiner la propagation du nouveau coronavirus. Le secrétaire du cabinet Carlo Nograles a déclaré que la quarantaine communautaire prendra fin de la semaine prochaine, mais serait prolongée jusqu'au 30 avril. Les Philippines ont été l'un des premiers pays à appliquer des mesures strictes de quarantaine à domicile, des politiques qui restreignent les déplacements et les réunions ont été imposées autour de la capitale Manille depuis presque un mois. COVID-19, 5,8 millions de salariés sont en chômage partiel en France. Le recours au chômage partiel a été demandé pour 5,8 millions de salariés, soit 1 sur 4 dans le privé. Un nouveau record qui pourrait coûter 19,6 milliards d'euros en 3 mois, a annoncé la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, lors d'une audition en vidéoconférence au Sénat mardi le 7 avril 2020. Elle a dit que la France est le seul pays à être à ce niveau de chômage partiel. Lors du précédent pointage, tout début avril, le recours à l'activité partielle non officielle du dispositif avait été demandé par 337 000 entreprises pour 3,6 millions de salariés. Selon Pénicaud, à peu près la moitié de l'économie est à l'arrêt. Voyant les données au 6 avril, le chômage partiel a été demandé par 544 000 entreprises et concerné 5,8 millions de salariés pour un total de 2,4 milliards d'euros chômés demandés. En moyenne, c'est 12 semaines à 35 heures hebdomadaires qui ont été demandées. Pénicaud a rappelé que ce dispositif a été mis en place pour sauver des millions d'emplois, éviter le chômage à des millions de Français et permettre aux entreprises de repartir plus vite. Charge de guitare, c'est tout le journal aujourd'hui. Chers auditrices et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ceux qui sont malades. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé. Bonsoir à tous, vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie. Maintenant, je vais vous présenter un programme de commentaires intitulé « Le Japon a finalement mis en œuvre l'urgence nationale de COVID-19 ». Vous êtes avec moi, Audrey. Le Japon a finalement déclaré la guerre contre COVID-19, mardi minuit le 7 avril 2020. Premier ministre japonais Shinzo Abe a décidé d'urgence nationale de COVID-19 après avoir tenu une réunion avec tous les éléments du gouvernement. la mise en œuvre de l'urgence nationale et l'impact de la pandémie de COVID-19 qui a grandement affecté la société et l'économie du pays. Pour mener à l'urgence nationale, le gouvernement central a coopéré avec les gouverneurs dans les 7 régions existantes. La promulgation d'une urgence nationale est également basée sur le fait que la pandémie de coronavirus s'est répandue. Le dimanche 5 avril, il y avait au total plus de 3 900 cas de COVID-19 au Japon. Mardi 7 avril, le nombre de mortes était de 92. Auparavant, les médecins de Tokyo avaient averti le gouvernement que la situation était déjà critique, car la capacité des hôpitaux à accueillir les victimes de COVID-19 était faible. L'urgence nationale empêchera les résidents de quitter la maison et de fermer l'établissement pendant une période d'environ un mois. Les gouverneurs ont également le droit d'utiliser les installations communautaires pour le traitement des patients et ceux qui sont affectés par COVID-19. L'utilisation des transports en commun au cours du mois prochain ne sera pas réduite en nombre, mais le volume de passagers est strictement réglementé. Le gouvernement réglementera la distance entre un passager et un autre dans les transports publics. Concernant la politique de l'urgence nationale adoptée par le gouvernement central, les observateurs économiques au Japon s'inquiètent de l'impact économique. Pour surmonter cela, le gouvernement du Premier ministre Shinzo Abe a publié un plan de relance d'une valeur de 108 000 milliards de yens, soit environ 20% du produit intérieur brut. Le Japon a enfin reconnu l'impact de la pandémie mondiale COVID-19. Comme d'autres pays industrialisés développés, la décision du confinement ou d'urgence nationale entraînerait un ralentissement. Le Japon ne peut pas entrer dans une récession économique, mais lorsque la pandémie COVID-19 est passée, le gouvernement Shinzo Abe doit s'efforcer de relancer la croissance économique du pays et de maintenir le niveau de bien-être de sa population. Serge Littard, c'est tout le commentaire.
Le 8 avril 1938, la naissance de Kofi Annan. Kofi Annan est un diplomate ghanéen qui a comparu pour la 7e fois en tant que secrétaire général des Nations Unies entre 1997 et 2006. Il dirige également l'Alliance de la Révolution verte en Afrique depuis 2007. Cette alliance de la révolution verte vise à accroître le rendement des produits agricoles et des plantations en Afrique tout en luttant contre la faim, la pénurie d'eau et l'érosion des sols. Ce personnage qui a élevé le statut de noir est né dans la région de Kumasi au Ghana le 8 avril 1938. Maintenant, le 8 avril 1946, la dernière réunion de la Ligue des Nations. La Ligue des Nations est une organisation internationale fondée après la conférence de paix de Paris en 1919, après la Première Guerre mondiale. Cet organe a plusieurs fonctions, notamment désarmer, prévenir la guerre par la sécurité collective, résoudre le conflit entre les pays par la négociation et la diplomatie et améliorer le bien-être mondial. L'idée de créer la Ligue des Nations a été lancée par le président des États-Unis, Woodrow Wilson, bien que les États-Unis n'aient jamais rejoint cette organisation par la suite. Émergeant de la Seconde Guerre mondiale renforçait de plus en plus la réalité du fait que la Ligue des Nations n'avait pas réussi à empêcher la guerre. Après le 8 avril 1948, la Ligue des Nations a tenu sa dernière réunion, 10 jours plus tard, la Ligue des Nations a été officiellement dissoute. Le 8 avril 2013, Margaret Thatcher est décédée. Margaret Hilda Thatcher a été la première femme à devenir première ministre britannique. Margaret est décédée le 8 avril 2013 à l'âge de 86 ans de suite d'un accident vasculaire cérébral. De 1979 à 1990, la femme surnommée la Dame de Fer fut le premier ministre au service du XXe siècle. Elle est la seule femme à avoir occupé ce poste. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Stop bicara cinta jika hanya garitkan luka. Stop bicara rindu jika hadirmu tak terasa. Perlukah ku menjauh, biarkan kau sendiri. Sampai kau cari aku, aku baiknya semua. Kembali kita pikirkan, lanjutkah, hentikah kita. Ku bertahan karena ku ingin bertahan. Ada cinta masih tersisa untukmu, tapi tolonglah beri aku alasan yang tepat untuk tak meninggalkanmu. Aku letih berjuang sendiri. Stop. Janji aku bukan prioritasmu. Stop bicara tentang masa depan kita tak jelas. Perlukah ku menjauh, biarkan kau sendiri. Sampai kau cari aku, aku baiknya semua. Kembali kita pikirkan, lanjutkah, hentikah kita. Aku bertahan karena ku ingin bertahan. Ada cinta masih tersisa untukmu, tapi tolonglah beri aku alasan yang tepat untuk tak meninggalkanmu. Aku letih berjuang sendiri. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop.
jika hanya garitkan luka.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. J'espère que vous aimez bien la chanson. Alors vous êtes toujours avec nous, The Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme de Mon Indonésie. Bonne écoute.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici Mon Indonésie ayant pour le titre Le ministre des entreprises d'État planifie des mesures stratégiques pour maintenir l'économie pendant la pandémie. Le ministre des entreprises d'État, Erick Thohir, s'est engagé à maintenir la durabilité des entreprises d'État face à l'impact économique de la pandémie de COVID-19. Erick n'a pas nié que la pandémie affectera également les performances des entreprises d'État. Dans une déclaration officielle à Jakarta dimanche, Erick Thohir s'est assuré de prioriser les travailleurs, de fusionner d'autres entreprises, de prioriser l'efficacité et de renforcer la vitesse de l'argent. Erick Thohir a ajouté que le ministère des entreprises d'État avait commencé à finaliser la cartographie du portefeuille d'activité de toutes les entreprises d'État et filiales. Comme première étape, il a réduit 51 filiales de la compagnie pétrolière et gazière Pertamina, de la compagnie de télécommunications Telkom et de la compagnie aérienne Garuda Indonesia. La réduction des effectifs se poursuivra tout en faisant attention aux employés qui y travaillent. Le ministère des entreprises d'État avait cartographié les entreprises d'État sur la base de portefeuille d'activité. La cartographie était basée sur la valeur économique de la fonction publique. Selon Erick Thohir, la cartographie décidera du mouvement et de la stratégie de son ministère pour décider de conserver, transformer, consolider, céder ou libérer une entreprise. Il espère que la cartographie et certaines mesures d'efficacité effectuées par des entreprises d'État peuvent anticiper l'impact économique en Indonésie dû à COVID-19. Erick Thohir a déclaré que certains pays, y compris l'Indonésie, sont certainement confrontés à de sérieux défis dans le secteur économique en raison de la pandémie. Il a mentionné qu'il existe un risque élevé et un risque très élevé. Cependant, Erick Thohir a affirmé que le gouvernement indonésien continue de maintenir l'économie nationale. Il a déclaré que le président Joko Widodo avait pris l'initiative en adoptant certaines réglementations pour sauvegarder l'économie nationale au milieu de la pandémie de COVID-19. En outre, le gouverneur de la Banque Indonésia, Perry Wardio, a affirmé que la Banque Indonésie s'efforcerait de protéger le taux de change de rupiah vers le dollar américain. Il a été mentionné que ces mesures étaient appréciées par le directeur général du FMI. Serge Ritter, c'était Mon Indonésie pour ce soir.
Membuat aku percaya.
de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français. Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une belle chanson? Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence des 3,25 kHz et sur le site web www.voines.id. Chers auditeurs, maintenant, nous allons présenter les magazines culturels. Bonne écoute!
Chers amis, bonsoir. Nous continuons notre émission ce soir avec la rubrique du magazine culturel. Aujourd'hui, nous vous invitons à visiter Manggarai West à Nusa Tenggara Est pour introduire la belle grotte Batu Cermin. Donc, restez toujours avec nous. Le service mondial de Radio Republik Indonesia, la voix d'Indonésie. La grotte Batu Cermin qui se trouve au village Wesambi, Manggarai West, Nusa Tenggara Est, se situe 4 km de Labuan Bajo, la capitale de Manggarai West. Cette grotte était trouvée par Theodore Verhoeven, un prêtre hollandais qui est aussi un archéologue, en 1951. Ce site touristique de 19 hectares avec la hauteur de la grotte d'environ 75 mètres est habituellement bondé pendant la journée. Au moment de l'entrée de la grotte au long de 200 mètres, vous vous sentirez votre corps est flanqué des falaises et de la mauvaise lumière du soleil. Plus vous entrez dans la grotte, vous vous sentirez l'air devient plus frais et moins de lumière que vous gagnerez. Verhoeven a conclu que cette grotte était autrefois sous la mer. Il est basé sur la découverte de fossilisés de coraux et créatures marines sur le mur de la grotte. Le plus visible est un fossile de tortue dans la paroi de la grotte. Si vous êtes curieux de voir ce qui est dit Verhoeven, vous devez entrer le trou qui peut être tout simplement entré par une seule personne et ne peut pas être passé par l'autre. Avant d'entrer dans la grotte, vous serez généralement équipé d'une lampe de poche par un guide touristique. En effet, la grotte Batu Cermin est très sombre et étroite. Pour entrer dans cette grotte, vous devez regarder vers le bas, si nécessaire, ramper à cause de stalactites qui sont au-dessous de la grotte. Pour être capable de voir la tortue fossile sur le mur de cette grotte, vous devez marcher environ 20 mètres. Parce que c'est étroit et l'air est limité. Les touristes qui sont entrés dans la grotte sont limités. Par exemple, 10 personnes d'abord et les autres attendent à l'extérieur pendant environ 30 minutes. À l'intérieur de la grotte, c'est répondu sur les tortues fossiles et pourquoi il a été nommé la grotte Batu Cermin. La grotte est nommée Batu Cermin parce que dans la grotte, il y a un trou dans l'eau haute. De sorte que pendant la journée, le soleil peut entrer dans la grotte à travers la fente étroite. Quand il pleut, l'eau de pluie va entrer dans la grotte et causer les inondations. L'eau stagnante qui est exposée au soleil vous permettra de voir votre propre visage dans un flaque d'eau qui a inondé la grotte. Voilà pourquoi cette grotte est appelée la grotte Batu Cermin. Ce n'est pas difficile d'atteindre la grotte, on a besoin moins de 30 minutes. De l'avant du port de Labuan Bajo, vous pouvez utiliser le transport public ou à vélo.
Ce transport ne pouvait vous transporter jusqu'à l'allée de cette zone après que vous devez marcher environ 10 à 15 minutes pour poster des informations de la grotte Batu Cermin. Chers amis, c'est le magazine Culture pour ce soir. Rendez-vous demain avec un autre sujet plus intéressant à la même heure et même fréquence. Merci de votre fidélité. À demain.
Chers auditeurs et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ceux qui sont malades. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé.
Masa di mana kita bersama, ku buka lembar demi lembar buku ingatan kita dulu. Ku berbisik dalam benak ini. Dirimu, kau yang terindah dalam hidupku. Namun masa itu telah berlalu. Tak terasa tetesan air mata surat ini. Ku berharap ku sentuh dirimu, kau yang terindah dalam hidupku. Namun masa itu telah berlalu. Kau
Serge Littard, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Alors, vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc Apprendre l'Indonésien. Bonne écoute.
Bonsoir tous les amis, on se retrouve dans l'émission Apprendre l'Indonésien, une rubrique qui vous introduit des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre la Voix de l'Indonésie, la station de radiodiffusion à l'étranger de Radio République Indonésie, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue du ministère de l'Éducation et de la Culture de la République de l'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est Berapa lama? Je répète, Berapa lama? En français, combien de temps? Bonne étude! Je vais vous donner un exemple de conversation en bahasa indonésia entre Joko et Tony, dont le titre est Berapa lama? Berapa lama? En français, combien de temps? Joko et Tony sont à la zone du temple de Prambanan. Ils parlent de plans de Tony à Jogja.
Berapa lama kamu akan tinggal di Jogja?
Seminggu.
Oh, hanya sebentar.
Iya.
Comme d'habitude, après avoir écouté cette conversation, je vais vous introduire des vocabulaires et des phrases indonésiennes liées au sujet d'aujourd'hui. Berapa lama? Berapa lama? En français, combien de temps? Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot ou chaque phrase deux fois. Vous pouvez les répéter après moi. Berapa lama? Berapa lama? En français, combien de temps? Akan tinggal? Akan tinggal? En français, restera. Berapa lama kamu akan tinggal di Jogja? Berapa lama kamu akan tinggal di Jogja? En français, combien de temps tu resteras à Jogja? Seminggu. Seminggu. En français, une semaine. Hanya sebentar. Hanya sebentar. En français, juste un instant. Pour demander la durée, en général, utilisez le mot de question berapa lama, qui signifie pour combien de temps. Par exemple, berapa lama kamu akan tinggal di Jogja? Berapa lama kamu akan tinggal di Jogja? Qui signifie pour combien de temps tu resteras à Jogja? Et vous pouvez demander spécifiquement en utilisant l'unité de temps comme berapa jam? Berapa jam? En français, combien d'heures? Berapa minggu? Berapa minggu? En français, combien de semaines? Berapa tahun? Berapa tahun? En français, combien d'années? Par exemple, berapa tahun kamu tinggal di London? Berapa tahun kamu tinggal di London? En français, pour combien de temps tu resteras à Londres? Dua tahun. Dua tahun. En français, deux ans. L'autre exemple. Berapa minggu kamu akan tinggal di Jogja? Berapa minggu kamu akan tinggal di Jogja? En français, pour combien de semaines tu resteras à Jogja? Seminggu. Seminggu. En français, une semaine. Seminggu signifie satu minggu. En français, une semaine. Si on dit sehari, sebulan, ou setahun, cela veut dire satu hari, ou un jour, satu bulan, un mois, satu tahun, une année. Avant de terminer apprendre l'indonésien aujourd'hui, pour comprendre plus, écoutons encore une fois la conversation.
Berapa lama kamu akan tinggal di Jogja?
Seminggu.
Oh, hanya sebentar.
Iya.
Chers amis, voilà l'émission Apprendre l'indonésien aujourd'hui. J'espère que cette édition pourrait être utile pour vous. Merci beaucoup pour votre attention. Au revoir.
Chers amis, c'était la quatrième chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute.
Voice of Indonesia avec le magazine musical. Aujourd'hui, va vous présenter la chanson de Kalimantan de l'Est intitulée Nasi Bekepor. Nasi Bekepor, ou le riz Bekepor, le titre de cette chanson est un aliment typique du Kutai et du Kalimantan de l'Est. Dans les paroles de la chanson, on a expliqué que le riz Bekepor est un riz avec des légumes à la citrouille, des feuilles de moutarde, des aubergines, du poisson chat ou du poisson noir. Le riz Bekepor est plus délicieux lorsque vous le mangez avec une sauce aux arachides. Le meilleur moment pour manger de nasi Bekepor est de déjeuner ensemble avec votre famille. Historiquement, le riz Bekepor est un aliment typique de Kutai Kartanegara. Mais dans le passé, seul le roi de Kutai qui peut manger ce repas. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas eu l'occasion de manger de riz, écoutez d'abord la chanson intitulée Nasi Bekepor, chantée par Nadira Arisanti. Bonne écoute!
Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, C'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous. Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter @voiceindonesia et la suite d'Instagram @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook The Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube Voice Indonesia et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.